Moderniser l'État social et non le démanteler. Toujours est-il que la redistribution moderne, et en particulier l'État social, bâti dans les pays riches au cours du XXe siècle, s'est construite autour d'un ensemble de droits sociaux fondamentaux. Le droit à l'éducation, à la santé, à la retraite. Quelles que soient les limitations et les défis auxquels font face aujourd'hui ces systèmes de prélèvements et de dépenses, ils représentent un immense progrès historique. Au-delà des conflits électoraux et du jeu politique partisan, ces systèmes sociaux font l'objet d'un très large consensus, notamment en Europe, où domine un attachement très fort à ce qui est perçu comme un modèle social européen. Aucun courant d'opinion significatif, aucune force politique d'importance n'envisage sérieusement de revenir à un monde où le taux de prélèvement redescendrait à 10% ou 20% du revenu national et où la puissance publique se limiterait aux fonctions régaliennes. Les choses sont différentes aux États-Unis, où certains groupes minoritaires mais significatifs remettent en cause radicalement l'existence même de tout programme social fédéral, voire de tout programme social tout court. Mais à l'inverse, aucun courant significatif ne soutient l'idée que le processus d'extension indéfinie de l'État social devrait reprendre dans l'avenir au même rythme qu'au cours de la période 1930-1980, ce qui pourrait porter le taux de prélèvement à 70-80% du revenu national d'ici à 2050-2060. Certes, dans l'absolu, rien n'interdit d'imaginer une société où les impôts représenteraient les deux tiers ou les trois quarts du revenu national, à partir du moment où ils seraient prélevés d'une façon transparente, efficace et acceptée par tous, et surtout où ils seraient utilisés pour financer des besoins et des investissements jugés prioritaires, par exemple dans la formation, la santé, la culture, l'énergie propre et le développement durable. L'impôt n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont on le prélève et de ce que l'on en fait. À l'échelle de l'Europe, ce sont les pays les plus riches et les plus productifs qui ont les impôts les plus élevés, entre 50 et 60% du revenu national en Suède et au Danemark, et les pays les plus pauvres et les moins développés qui ont les impôts les plus faibles, à peine plus de 30% du revenu national en Bulgarie et en Roumanie. Il existe cependant deux bonnes raisons de penser qu'une progression aussi forte des impôts n'est ni réaliste ni souhaitable, tout du moins à un horizon prévisible. Tout d'abord, le processus très rapide d'extension du rôle de l'État observé pendant les Trente Glorieuses a été grandement facilité et accéléré par la croissance exceptionnellement forte qui caractérise cette période, tout du moins en Europe continentale. Aux États-Unis et surtout au Royaume-Uni, la rapide extension de l'État social s'est faite avec une croissance nettement moins élevée, d'où peut-être un sentiment plus fort de dépossession, doublé d'un sentiment de rattrapage par les autres pays déjà évoqués. Quand les revenus progressent de 5% par an, il n'est pas trop difficile d'accepter qu'une part de cette croissance soit affectée chaque année à la progression du taux de prélèvement et de dépenses publiques, et donc que ces derniers progressent plus vite que la croissance moyenne. Surtout dans un contexte où les besoins en termes d'éducation, de santé et de retraite sont évidents, tant il est vrai que l'on part de très bas en 1930 ou en 1950. Il en va très différemment depuis les années 1980-1990, avec une croissance du revenu moyen par habitant adulte limitée à guère plus de 1% par an. Personne ne souhaite une hausse massive et continue des prélèvements qui aggraverait encore la stagnation des revenus ou bien la transformerait en régression claire et nette. On peut imaginer des redistributions entre prélèvements ou une plus forte progressivité fiscale pour une masse globale plus ou moins stable. Mais il est très difficile d'envisager une hausse générale et durable du taux moyen d'imposition. Ce n'est pas par hasard si l'on observe une stabilisation dans tous les pays riches, quelles que soient les spécificités nationales et les alternances politiques. Voir graphique 13.1. En outre, il n'est pas du tout certain que les besoins justifient un accroissement indéfini des prélèvements publics. Certes, il existe des besoins objectivement croissants en termes de formation et de santé, qui peuvent sans doute justifier un léger accroissement des prélèvements publics à l'avenir. Mais les habitants des pays riches ont également des besoins légitimes de pouvoir d'achat pour acheter toutes sortes de biens et services produits par le secteur privé, par exemple pour voyager, se vêtir, se loger, accéder à de nouveaux services culturels, s'offrir la dernière tablette et ainsi de suite. Dans un monde de croissance faible de la productivité, de l'ordre de 1, 1,5%, dont nous avons vu qu'il s'agissait en réalité d'un rythme non négligeable à très long terme, il faut faire des choix entre différents types de besoins, et il n'y a pas de raison évidente de penser que les prélèvements publics devraient financer à terme la quasi-totalité des besoins. Par ailleurs, au-delà de cette logique de besoins et de partage de la croissance entre différents besoins, il faut prendre en compte le fait que le secteur public, lorsqu'il dépasse une certaine taille, pose de sérieux problèmes d'organisation. Là encore, on ne peut présager de rien dans le très long terme. On peut tout à fait imaginer le développement de nouveaux modes d'organisation décentralisés et participatifs, l'invention de formes innovantes de gouvernance, permettant à terme de structurer de façon efficace un secteur public beaucoup plus vaste que celui qui existe actuellement. La notion même de secteur public est d'ailleurs en soi réductrice. Le fait qu'il existe un financement public n'implique pas que la production du service en question soit réalisée par des personnes directement employées par l'État ou les collectivités publiques au sens strict. Dans le secteur de l'éducation ou de la santé, il existe dans tous les pays une grande diversité de structures juridiques, notamment sous forme de fondations et d'associations, qui sont de fait des structures intermédiaires entre les deux formes polaires que sont l'État et l'entreprise privée, et qui participent à la production de services publics. Au total, l'éducation et la santé représentent plus de 20% de l'emploi et du PIB dans les économies développées, soit davantage que tous les secteurs industriels réunis. Ce n'est donc pas totalement négligeable. Ce mode d'organisation de la production correspond en outre à une réalité durable et universelle. Par exemple, personne n'envisage de transformer les universités américaines en sociétés par actions. Il est tout à fait possible que ces formes intermédiaires s'étendent à l'avenir, par exemple dans les secteurs culturels ou dans les médias, où le modèle de société à but lucratif est déjà loin d'être la forme unique et pose souvent de sérieux problèmes, notamment en termes de conflits d'intérêts. Nous avons également vu, en étudiant la structure et la valorisation du capital en Allemagne, que la notion même de propriété privée n'était pas univoque, y compris dans le secteur industriel le plus classique, l'automobile. L'idée selon laquelle il existerait une seule forme possible de propriété du capital et d'organisation de la production ne correspond en aucune façon à la réalité présente du monde développé. Nous vivons dans un système d'économie mixte, différent sans doute de celui imaginé dans l'immédiate après-guerre, mais néanmoins bien réel. Il en ira de même à l'avenir, sans doute de plus en plus, de nouvelles formes d'organisation et de propriété sont à inventer. Cela étant dit, avant d'apprendre à organiser efficacement des financements publics représentant les deux tiers ou les trois quarts du revenu national, il serait bon d'améliorer l'organisation et le fonctionnement d'un service public qui représente actuellement la moitié du revenu national, en incluant les revenus de remplacement et de transfert, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. En Allemagne, comme en France ou en Italie, au Royaume-Uni comme en Suède, les débats autour de l'État social dans les années et décennies à venir porteront avant tout sur ces questions d'organisation, de modernisation et de consolidation. Pour une masse totale de prélèvements et de dépenses plus ou moins inchangées en proportion du revenu national, ou peut-être en légère hausse si l'on suit une logique de besoin. Comment améliorer le fonctionnement des hôpitaux et des crèches ? Que changer au remboursement d'honoraires médicaux ou de médicaments? Comment réformer les universités ou les écoles primaires? Comment ajuster le calcul des retraites ou des allocations chômage en fonction de l'évolution de l'espérance de vie ou du chômage des jeunes? À partir du moment où les dépenses publiques représentent près de la moitié du revenu national, toutes ces discussions sont légitimes et même indispensables. Si l'on ne se réinterroge pas en permanence sur les façons de rendre ces services toujours plus adaptés aux besoins du public, alors le consensus autour de ce haut niveau de prélèvement, et donc de l'État social, ne durera peut-être pas éternellement. L'analyse des perspectives de réforme dans l'ensemble de ces champs d'action de l'État social dépasserait évidemment de beaucoup le cadre de ce livre. Nous allons simplement préciser quelques-uns des enjeux liés à deux domaines d'intervention particulièrement importants pour l'avenir et très directement liés à notre enquête. D'une part, la question de l'égalité d'accès à la formation, et notamment à l'enseignement supérieur, et d'autre part, la question de l'avenir des systèmes de retraite de répartition dans un monde de croissance faible. Les institutions éducatives permettent-elles la mobilité sociale? Dans tous les pays, sur tous les continents, l'un des principaux objectifs des institutions éducatives et des dépenses publiques d'éducation est de permettre une certaine mobilité sociale. L'objectif revendiqué est que chacun puisse avoir accès à la formation, quelles que soient ses origines sociales. Dans quelle mesure les institutions existantes remplissent-elles réellement cet objectif? Nous avons déjà vu dans la troisième partie de ce livre que l'élévation considérable du niveau moyen de formation qui a eu lieu au cours du XXe siècle n'a pas permis de réduire l'inégalité des revenus du travail. Tous les niveaux de qualification ont été tirés vers le haut. Le certificat d'études est devenu baccalauréat, le baccalauréat est devenu doctorat. Et compte tenu des transformations des techniques et des besoins, tous les niveaux de salaire ont progressé à des rythmes voisins, si bien que l'inégalité n'a pas changé. La question que nous posons maintenant est celle de la mobilité. La massification de l'enseignement a-t-elle permis un renouvellement plus rapide des gagnants et perdants de la hiérarchie des qualifications pour une inégalité donnée? D'après les données disponibles, la réponse semble négative. La corrélation intergénérationnelle des diplômes et des revenus du travail, qui mesure la reproduction dans le temps des hiérarchies, ne semble pas manifester de tendance à la baisse dans le long terme, et aurait même eu tendance à augmenter au cours de la période récente. Il faut toutefois souligner qu'il est beaucoup plus difficile de mesurer la mobilité sur deux générations que l'inégalité en un point donné du temps, et que les sources disponibles pour estimer l'évolution historique de la mobilité sont extrêmement imparfaites. Le résultat le plus clairement établi dans ce domaine de recherche est le fait que la reproduction intergénérationnelle est la plus faible dans les pays nordiques et qu'elle est la plus élevée aux États-Unis, avec un coefficient de corrélation 2-3 fois plus élevé outre-Atlantique qu'en Suède. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont apparemment dans une situation intermédiaire, moins mobile que l'Europe du Nord, mais plus mobile que les États-Unis. Ces résultats contrastent singulièrement avec la croyance dans l'exceptionnalisme américain, qui a longtemps imprégné la sociologie outre-Atlantique, et selon laquelle les États-Unis se caractériseraient par une mobilité sociale exceptionnellement forte par comparaison aux sociétés de classe à l'européenne. Sans doute la société de Colomb était-elle plus mobile au début du XIXe siècle. Nous avons également noté que l'héritage était historiquement plus faible aux États-Unis et que la concentration patrimoniale a également longtemps été plus réduite qu'en Europe, tout du moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais au XXe siècle et au début du XXIe siècle, toutes les données disponibles suggèrent que la mobilité sociale est au final plus faible aux États-Unis qu'en Europe. Ces résultats peuvent s'expliquer, au moins en partie, par le fait que l'accès à l'enseignement supérieur, ou tout du moins aux universités les plus élitistes, nécessite aux États-Unis le paiement de droits d'inscription qui sont souvent extrêmement élevés. Compte tenu de la très forte augmentation de ces droits dans les universités américaines au cours des années 1990-2010, progression qui a d'ailleurs suivi d'assez près celle des revenus américains les plus élevés, tout laisse à penser que les indicateurs de reproduction intergénérationnelle observés aux États-Unis dans le passé vont encore s'aggraver pour les générations à venir. La question de l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur devient d'ailleurs de plus en plus un sujet de débat outre-Atlantique. En particulier, des travaux récents ont montré que la proportion de diplômés stagnait autour de 10-20% parmi les enfants dont les parents appartiennent aux deux quartiles les plus pauvres de la hiérarchie des revenus, alors qu'elle était passée, entre 1970 et 2010, de 40% à 80% pour les enfants du quartile le plus élevé, les 25% les plus riches. Autrement dit, le revenu des parents est devenu un prédicteur presque parfait de l'accès à l'université. Méritocratie et oligarchie à l'université. Cette inégalité d'accès semble se répéter au sommet de la hiérarchie économique, non seulement du fait de frais d'inscription très élevés pour les universités privées les plus prestigieuses, y compris pour des parents appartenant à la classe moyenne très supérieure, mais également parce que les décisions d'admission dépendent manifestement de façon significative de la capacité financière des parents à faire des dons aux universités. Une étude a ainsi mis en évidence que les dons faits par les anciens élèves à leur université étaient étrangement concentrés dans les périodes où leurs enfants sont en âge de candidater à l'université. En confrontant les différentes sources disponibles, on peut par ailleurs estimer que le revenu moyen des parents des étudiants de Harvard est actuellement de l'ordre de $450,000, soit approximativement le revenu moyen des 2% des foyers américains les plus riches. Cela ne signifie pas que Harvard recrute uniquement parmi les 2% des Américains les plus riches. Simplement, cela signifie que les recrutements au-dessous des 2% les plus riches sont suffisamment rares et les recrutements au sein des 2% les plus riches suffisamment haut placés dans ce groupe pour que la moyenne générale soit celle-là. Cela paraît peu compatible avec l'idée d'une sélection uniquement fondée sur le mérite. Le contraste entre le discours méritocratique officiel et la réalité semble ici particulièrement extrême. Il faut également souligner l'absence complète de transparence qui existe sur ces procédures de sélection. On aurait bien tort cependant de s'imaginer que l'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur se pose uniquement aux États-Unis. Il s'agit d'une des questions les plus importantes auxquelles l'État social doit faire face au XXIe siècle. Aucun pays à ce stade n'y a apporté de réponse vraiment satisfaisante. Les droits d'inscription universitaire sont certes beaucoup plus faibles en Europe, si l'on excepte le cas du Royaume-Uni. Les droits maximaux que peuvent faire payer les universités britanniques ont été portés à 1000 livres en 1998, 3000 livres en 2004 et 9000 livres en 2012. Dans les autres pays, qu'il s'agisse de la Suède ou des autres pays nordiques, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie ou de l'Espagne, les droits d'inscription sont généralement relativement faibles, moins de 500 euros. Même s'il existe des exceptions, comme les écoles de commerce ou Sciences Po en France, et même si la situation évolue rapidement, il s'agit à ce jour d'une différence très frappante avec les États-Unis. En Europe continentale, on considère en général que les droits d'inscription doivent être nuls ou faibles, et que l'accès à l'enseignement supérieur doit être gratuit ou quasi gratuit, de même que pour l'éducation primaire ou secondaire. La Bavière et la Basse-Saxe viennent même de décider début 2013 de supprimer les droits d'inscription universitaire de 500 euros par semestre et de pratiquer, comme le reste de l'Allemagne, la gratuité totale. Dans les pays nordiques, les droits ne dépassent pas quelques centaines d'euros comme en France. Au Québec, la décision de porter graduellement les droits d'inscription d'environ $2,000 à près de $4,000 a été interprétée comme une volonté de basculer vers un système inégalitaire à l'américaine et a conduit à la grève étudiante de l'hiver 2012 et finalement à la chute du gouvernement et à l'annulation de la mesure. Mais il serait naïf de s'imaginer que la gratuité suffit pour régler tous les problèmes. Des mécanismes de sélection sociale et culturelle plus subtils, tels que ceux analysés en 1964 par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans « Les héritiers », viennent souvent remplacer la sélection financière. En pratique, le système français des grandes écoles aboutit bien souvent à consacrer une dépense publique plus élevée à des étudiants issus de milieux sociaux plus favorisés et une dépense publique plus faible aux étudiants de l'université issus en moyenne de milieux plus modestes. Là encore, le contraste entre le discours officiel sur la méritocratie républicaine et la réalité, l'argent public amplifie l'inégalité des origines sociales, est particulièrement extrême. D'après les données disponibles, il semblerait que le revenu moyen des parents des étudiants de Sciences Po soit actuellement de l'ordre de 90 000 euros, ce qui correspond approximativement au revenu moyen des 10% des foyers français les plus riches. Le bassin de recrutement est donc 5 fois plus vaste que celui de Harvard, mais il n'en est pas moins relativement restreint. Aucune donnée ne permet de faire le même calcul pour les étudiants des autres grandes écoles, mais il est probable que le résultat ne serait guère différent. Entendons-nous bien, il n'existe pas de façon simple d'atteindre une réelle égalité des chances dans l'enseignement supérieur. Il s'agit d'un enjeu central pour l'État social au XXIe siècle, et le système idéal reste à inventer. Les droits d'inscription élevés créent une inacceptable inégalité d'accès, mais ils apportent une autonomie, une prospérité et un dynamisme qui font l'attractivité des universités américaines de par le monde. Dans l'absolu, il est possible de concilier les avantages de la décentralisation avec ceux de l'égalité d'accès, en apportant aux universités un financement public élevé et incitatif. C'est d'une certaine façon ce que font les systèmes publics d'assurance maladie. On s'appuie sur une certaine autonomie des producteurs, les médecins, les hôpitaux, tout en prenant en charge collectivement le coût des soins de façon que tous les patients puissent y accéder. On peut faire la même chose avec les universités et les étudiants. Les universités des pays nordiques suivent une stratégie de cet ordre. Cela nécessite certes des financements publics importants qui ne sont pas faciles à mobiliser dans le contexte actuel de consolidation de l'État social. Une telle stratégie est toutefois beaucoup plus satisfaisante que les autres systèmes expérimentés récemment, qu'il s'agisse des droits d'inscription variant avec le niveau de revenu des parents ou des emprunts remboursables sous forme de suppléments d'impôt sur le revenu. Les Income Contingent Loans, appliqués en Australie et au Royaume-Uni, correspondent à des emprunts souscrits par les étudiants d'origine modeste et qui ne seront repayés qu'une fois atteint un certain niveau de revenu. Cela s'apparente à un supplément d'impôt sur le revenu pour les étudiants modestes, alors que les plus aisés bénéficient des dons, généralement non taxés, de leurs parents. En tout état de cause, pour avoir une chance de faire des progrès sur ces questions essentielles pour l'avenir, il serait bon de commencer par établir davantage de transparence. Aux États-Unis, en France et dans la plupart des pays, les discours à la gloire du modèle méritocratique national sont rarement fondés sur un examen attentif des faits. Il s'agit le plus souvent de justifier les inégalités existantes sans considération pour les échecs parfois patents du système en place. En 1872, Émile Boutmy crée Sciences Po en lui donnant une claire mission, contrainte de subir le droit du plus nombreux. Les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que, derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver sans folie. Essayons de prendre au sérieux cette incroyable déclaration. Elle signifie que c'est par instinct de survie que les classes élevées quittent l'oisiveté et invente la méritocratie, faute de quoi le suffrage universel risque de les déposséder. Sans doute peut-on la mettre sur le compte du contexte de l'époque. La Commune de Paris vient d'être réprimée et le suffrage universel masculin est tout juste rétabli. Elle a cependant le mérite de rappeler une vérité essentielle, donner du sens aux inégalités et légitimer la position des gagnants est une question d'importance vitale qui justifie parfois toutes les approximations.